Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et je le disais, on va être sérieux, l'invité de la matinale ce matin est Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor. Il est venu en direct avec nous au micro de Bretagne 5 Matin, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde.
Voilà, alors on va essayer de reprendre notre sérieux après la chronique de Christophe Hamon pour parler politique. Et il y a beaucoup de choses à dire, on va parler des européennes en particulier, avec le bureau national du PS qui a décidé finalement... sur le principe d'une liste autonome pour ce scrutin de juin 2024. Est-ce que c'est la désunion de la gauche, si vous me permettez le terme ?
Juste avant ça, je voudrais quand même réagir, si je peux me permettre, à la chronique, parce qu'elle était d'une part extrêmement drôle, mais il y a quand même un sujet qui moi, m'inquiète beaucoup sur ce sujet de l'essence, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui est dans l'incapacité d'agir et de prendre des décisions coercitives, on le voit bien, et en fait, on a un ministre de l'économie qui demande des ristournes aux entreprises qui produisent du pétrole, et finalement, elles refusent, et derrière, rien ne se passe. Donc en fait, on donne l'impression que le politique est absolument impuissant et que les multinationales qui produisent le pétrole font finalement ce qu'elles veulent. Donc je trouve que la chronique, en plus de l'humour, avait un sens politique extrêmement fort et extrêmement inquiétant aujourd'hui quand on voit la hausse du prix de l'essence. Pour vous répondre sur l'union de la gauche, il n'y a pas de désunion de la gauche, il faut bien comprendre que... Tout d'abord, d'autres partis de gauche, les écologistes, le Parti communiste, avaient déjà de leur côté acté la nécessité pour eux de faire une liste commune. Moi, je veux dire plusieurs choses. D'une part, l'union de la gauche, elle existe à plusieurs échelles. Elle existe à l'Assemblée nationale, au sein de la NUPES. Les députés continuent de travailler ensemble. Elle existe dans différentes collectivités, ici au Conseil départemental des Côtes d'Armor, par exemple. Mais il faut bien comprendre que les élections européennes, c'est un scrutin proportionnel. Mmh. Que pour la première fois depuis longtemps, le Parlement européen peut passer à gauche l'année prochaine, en 2024. Et ça, je tiens à ce que tout le monde le retienne. Il n'y a actuellement que 14 sièges d'écart entre le premier groupe de droite et le Parti Socialiste Européen à Bruxelles. 14 sur 710, donc vous voyez que c'est extrêmement faible. Et on voit bien que toutes les études le montrent, et l'histoire l'a montré aussi dans les élections précédentes, que la gauche aura davantage d'élus avec plusieurs listes qu'avec une seule liste. Donc moi, je ne voulais pas que ces élections européennes, et c'est la ligne du Parti Socialiste, ces élections européennes, ce n'est pas un marchepied pour celles et ceux qui ont envie d'être candidats à l'élection présidentielle de 2027. C'est pas là pour les renforcer. Les élections européennes, elles sont faites pour faire basculer l'Europe d'un système libéral qui lui aussi est incapable d'aider par exemple les Françaises et les Français sur le prix de l'essence vers une Europe socialiste, écologique qui s'occupe des problèmes quotidiens des Françaises et des Français. Et ici, il y en a plein. Il y a le prix de l'essence, il y a le prix de l'alimentation, il y a la capacité à partir en vacances. Cet été encore, un enfant sur deux en France n'a pas pu partir en vacances du fait de la hausse des prix.
Alors justement, vous m'avez devancé, Antoine Ravard, mais la parole est libre, évidemment, au micro de Bretagne 5 Matin. L'inflation, aujourd'hui, c'est une inquiétude, et l'électricité en particulier. On en parle beaucoup sur cette antenne. C'est une question que je pose souvent aux invités. Est-ce qu'il faut sortir du marché européen d'électricité ? Est-ce qu'il faut avoir une forme de protectionnisme pour refaire, en tout cas pour avoir la maîtrise des coûts de l'énergie, des coûts de l'électricité ?
Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire forcément de reculer systématiquement vis-à-vis de l'Europe. Ce qui est possible, c'est de transformer l'Europe. Si à chaque fois que l'Europe fait quelque chose qui ne nous va pas, on nous dit qu'il faut en sortir, on entretiendrait nous-mêmes la fable que l'Europe serait une...
Je parlais du marché de l'électricité, bien sûr.
Mais évidemment que nous sommes pour une reprise de souveraineté sur les marchés des biens communs et des biens essentiels, c'est-à-dire arrêter la mise en concurrence de l'électricité, limiter la mise en concurrence de l'eau, qui a existé aussi pour certaines années. On avait... conduit à privatiser les régies publiques. Je rappelle qu'à l'époque, l'Allemagne avait refusé. Ils avaient donc fait une désobéissance au traité. Et j'emprunte volontairement ce gros mot pour certains. Et aujourd'hui, tous les pays se tournent vers l'Allemagne pour leur dire comment vous aviez fait finalement, parce qu'on aimerait tous refaire la même chose maintenant qu'on se rend bien compte qu'on a des pénuries d'eau qui démarrent et qui vont s'aggraver dans les décennies qui viennent. Donc oui, sur le marché de l'électricité, la priorité ne doit pas être la concurrence pour le rendement économique. La priorité est de garantir un accès à chaque Française, à chaque Français, à l'électricité à un prix abordable.
Il faut à un moment, justement, Antoine Ravard, penser aux plus précaires. Ils sont nombreux. On va en parler de cette précarité galopante. On a vu les difficultés des associations, et pas des moindres, les restaurants du cœur, les restos du cœur qui ont eu beaucoup de difficultés. Bon, les aides sont arrivées, mais à boucler pour pouvoir essayer de satisfaire le plus grand nombre de bénéficiaires. Cette précarité, elle peut être endiguée si on fait baisser les prix de première nécessité, ce qui permet de manger, de vivre. On parlait également question de carburant tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'important, comme par exemple supprimer ou baisser la TVA sur les produits de première nécessité? Est-ce que ça peut être une mesure de gauche, ça, par exemple?
On peut effectivement baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Elle est déjà plus faible que sur les autres produits, puisqu'elle est à 5,5%. Rappelez que la TVA est effectivement l'impôt le plus inégalitaire en France, hein, puisque tout le monde paye le même taux, finalement. Et en vérité, ça aboutit à ce que les personnes qui ont les salaires les plus faibles payent une part de TVA par rapport à leur salaire qui est extrêmement conséquente. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'agir sur celles et ceux qui ont augmenté leur marge. Moi, je veux cibler personne, mais il y a certaines industries agroalimentaires, certaines plateformes de grande distribution qui profitent de la hausse des coûts pour augmenter leur marge. Et puis, il y a aussi un sujet qui est extrêmement européen. Nous, on veut s'y attaquer avec le Parti Socialiste. C'est un peu plus abstrait, mais je tiens à le dire, parce qu'il n'y a pas forcément de solution de facilité. Il faut s'attaquer à ceux qui spéculent sur les prix alimentaires, notamment du blé, sur les marchés internationaux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous avez du mal à acheter des pâtes ou de l'huile d'olive à la fin du mois, et ben pendant ce temps-là, il y en a certains qui sont occupés à spéculer pour se remplir les poches. Moi, ces gens-là, c'est simple, je les appelle des profiteurs de guerre. Parce que l'augmentation du prix de l'alimentaire est notamment due à une guerre en Ukraine. Ceux qui profitent de la guerre pour se remplir les poches sont des profiteurs de guerre, il faut le dire. Donc là, il faut sévir à différents niveaux. Et puis, il y a aussi un combat à mener qui est d'abord à l'échelle française, mais on l'étendra à l'échelle européenne, qui est celui de l'augmentation des salaires. Parce que quand les prix augmentent, il faut que les salaires suivent. Le gouvernement nous dit que l'année dernière, les salaires ont augmenté en moyenne de 3,5%. C'est vrai, mais l'inflation était de plus de 6%. Mmh. Et ça, je le dis bien, c'est une inflation moyenne. L'inflation sur les biens de première nécessité était en réalité de 15% à peu près, et jusqu'à 40% sur certains prix alimentaires. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les études d'opinion que l'on a, et on en croise des gens tous les jours, 40% des Français déclarent désormais sauter régulièrement des repas. Dans la cinquième puissance économique du monde, 4 Français sur 10 sautent des repas faute de revenus.
Beaucoup de Français déclarent, selon une étude récente, effectivement, que les Français, pour la plupart, pour quelques-uns en tout cas d'entre eux, ne mangent qu'un seul repas par jour. Et c'est vrai que c'est choquant.
Et un étudiant sur deux.
Et un étudiant sur deux également. Il y a aussi le problème du logement. C'est un problème récurrent. On en parle là aussi très souvent sur cette antenne. On a le problème en Bretagne. Ça a beaucoup fait couler d'encre ces temps derniers. Les Bretons n'arrivent plus à se loger. Alors, plus largement les Français, mais il y a des régions en tension, la Bretagne en fait partie. Là aussi, il faut avoir des mesures coercitives, plus volontaristes. En gros, il faut faire un petit peu le gendarme.
Oui, certainement, puisque là aussi, on touche à un bien de première nécessité. La capacité à se loger, c'est évidemment un bien primaire pour tous les Français, et finalement tout le monde à travers l'Europe notamment, puisqu'on va traiter la question aussi européenne. Il faut favoriser la création de logements sociaux, sévir plus massivement contre les communes. Je rappelle qu'il y a une loi qui oblige chaque commune à avoir un taux de logement social. Beaucoup ne le respectent pas. Il faut, en ce qui concerne la Bretagne, et notamment je parle des communes littorales, limiter la capacité à certaines à avoir des maisons secondaires qui sont mises en location saisonnière, temporaire. Vous voyez très bien de quelle plateforme américaine je voudrais parler.
On peut dire notamment, Airbnb.
On peut parler d'Airbnb, évidemment. Il faut sévir massivement sur ce sujet-là. Pour ce qui est des autres territoires, et je parle notamment au centre-Bretagne, il faut favoriser l'accès à la première propriété, notamment, puisque moi je pense beaucoup aux jeunes Bretons et Bretonnes qui, à cause de l'augmentation de la vie touristique en Bretagne, qui peut être une bonne chose par ailleurs, ne peuvent plus se loger à côté de là où ils ont grandi, ce qui est absolument pas normal. Ils sont obligés d'aller dans des régions plus reculées ou éloignées de la Bretagne. Donc il faut favoriser l'accès à la première propriété pour ces jeunes-là, notamment lorsqu'ils sont en premier emploi, lorsqu'ils créent une première entreprise d'artisanat dans nos territoires. Et puis, il faut aussi favoriser la rénovation énergétique parce que dans le coût du logement, il y a aussi le coût des dépenses énergétiques que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes payent. Hein. On avait vu l'année dernière des cas extrêmement parlants de gens qui avaient des logements sociaux, donc on considérait qu'ils pouvaient être suffisamment aidés. Mais en réalité, les logements sociaux étaient tellement isolés qu'ils payaient plus d'électricité et de chauffage que de loyer. On voit bien l'aberration totale. Donc le logement est sans doute l'un des chantiers principal en France à court terme et à moyen terme avec l'alimentation dont on vient de parler. Et moi, je veux le redire sur l'alimentation. Le Parti Socialiste souhaite faire de l'accès à l'alimentation et de l'éradication de la faim, finalement, en Europe, la grande cause de ce mandat européen. Moi, c'est ce que je souhaite porter.
Alors, on en parle aussi beaucoup. C'est un sujet qui revient dans l'actualité, Antoine Ravard. Les réfugiés qui arrivent en grand nombre à Lampedusa, en Italie. Que doit-on faire? Parce que là, on a la question. Aujourd'hui, on ne sait pas si on peut les accueillir, si on peut les répartir, s'il faut les renvoyer chez eux. Je suis un brin provocant, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Que fait-on de ces réfugiés qui arrivent?
Je crois déjà qu'il faut essayer d'apaiser le débat. De quoi parle-t-on à Lampedusa? On parle d'environ 10 000 personnes. 10 000 personnes, pour donner une idée à chacune et à chacun de celles et ceux qui nous écoutent, si on les répartissait en Europe au prorata, vous savez, de la population de chaque pays, ça ferait à peu près 800 pour la France.
Voilà, ça reste quand même très marginal.
Est-ce que l'on considère, moi je veux poser la question, ces fameux militants d'extrême droite qui considèrent que la France est un grand pays, une France forte, etc., on les entend à longueur de temps nous donner des formules vides de sens, est-ce qu'un grand pays est véritablement incapable d'accueillir 800 personnes? C'est la question. Deuxième chiffre que je voudrais donner, pour pas, même si c'est pas une bonne idée de se noyer, on parle de 10 000 personnes aujourd'hui à Lampedusa. Depuis 5 ans, il y a eu 30 000 morts dans la Méditerranée. Mmh. Parce qu'on est incapable, qu'on ne contribue pas à sécuriser les routes migratoires pour ces personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je crois qu'il faut déjà changer profondément le système européen qui aujourd'hui met une grande pression sur les pays de première entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays qui accueillent ces migrants qui viennent pour beaucoup dans des navires de fortune ont à leur charge l'étude du dossier d'asile, ce qui empêche une répartition équitable sur le sol européen, capacité de chaque pays d'accueillir. Il faut apaiser le débat aussi dans le débat public, parce que plus on tend le débat, moins on est capable d'avoir des solutions d'avenir.
Il y a un enjeu politique, très clairement, le Rassemblement national le dit, hein, il ne faut pas accueillir les migrants. On a entendu aussi Gérald Darmanin qui a dit « pas un migrant sur le territoire français ».
Oui, mais ce que dit Darmanin, c'est une phrase extrêmement populiste, parce qu'il dit « il n'y aura pas un des migrants de Lampedusa ». Il laisse sous-entendre, pour flatter l'extrême droite, on sait bien que c'est son côté favori, que du coup, il n'y aurait pas un migrant pendant ce temps-là qui arriverait sur le sol français. C'est faux, il y a des migrants qui arrivent d'ailleurs sur le sol français, donc c'est extrêmement populiste de dire cela. Et puis moi, je voudrais dire autre chose, on paye en France, ça avait commencé avec la Turquie, aujourd'hui c'est le cas avec la Tunisie, des pays qui sont frontaliers ou de l'autre côté de la Méditerranée, pour finalement bloquer des migrants qui viendraient du Sahel ou du Sahara à leurs frontières, de manière à ce qu'ils ne viennent pas chez nous. On paye vraiment la Tunisie actuellement pour cela. La réalité, c'est que ces régimes, on ne peut pas leur faire confiance, ce sont des régimes autoritaires. Et dès qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en échange, qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent les départs massifs, de manière à mettre une pression migratoire sur le sud de l'Union européenne, en considérant que ça va déliter la cohésion nationale et la cohésion européenne. Ce qui est partiellement le cas, mais moi, je veux m'opposer extrêmement fermement au Rassemblement national, qui fait en fait campagne sur la misère humaine. Je veux le redire, à Lampedusa aujourd'hui, on a des femmes et des enfants qui meurent. On a eu un témoignage la semaine dernière d'une femme qui, le long de son parcours migratoire, excusez-moi pour les mots crus à 8h30, mais elle explique qu'entre la Mauritanie et la Tunisie, elle a été volée 8 fois. C'est ça la réalité des vies de ces migrants. Moi, je crois que dans ces zones-là, les gens connaissent la guerre, la famine, les pénuries d'eau. Je crois qu'on ne part pas volontairement au péril de sa vie en utilisant toutes ses économies, simplement parce que l'on croit que l'on serait mieux en France. On y va pour se sauver, tout simplement.
Faut s'attaquer aussi aux passeurs qui...
Évidemment.
Voilà. Alors, favorise la traversée, mais moyennant quand même.
Évidemment, il faut s'attaquer aux passeurs qui sont tout simplement des groupes mafieux qui, eux aussi, font du business, vraiment d'un point de vue, d'autres le font d'un point de vue politique, eux, c'est vraiment d'un point de vue pécunier, font du business sur la misère humaine.
On a aussi un autre sujet. Alors, ça va très vite ce matin, Antoine Ravard, mais sujet de société, on en a beaucoup parlé, c'est le harcèlement scolaire et l'arrestation de cet élève dans sa classe, dans son lycée, ou dans son collège d'ailleurs. Est-ce que ça vous a choqué, cette arrestation? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, c'est un signe fort pour faire peur, finalement, la peur du gendarme, la peur de l'autorité?
Oui, vous avez raison, ça fait peur. La question, c'est, est-ce que la République doit faire peur à des enfants de 12 ans?
14 ans,
voilà. Mais non plus. Donc il y a deux sujets. Il y a le harcèlement scolaire. On peut se réjouir qu'enfin le ministre de l'Éducation nationale, à qui il ne reste plus grand-chose à faire d'ailleurs, puisque le président de la République a dit que l'Éducation nationale était son domaine réservé. Donc on voit bien qu'il prend ce qui lui reste. Tant mieux, on a quelqu'un qui a envie de se saisir du problème du harcèlement scolaire. Ça, c'est une très bonne chose. On ne va pas le reprocher à Gabriel Attal. La méthode ne me paraît pas être la bonne. Pour moi, dans un collège, dans une école, même y compris dans un lycée, devant des enfants mineurs qui sont en train d'apprendre, de récupérer les savoirs de la République, on ne fait pas rentrer les forces de l'ordre pour emmener l'un de leurs camarades de classe, quand bien même ce jeune homme ou cette jeune femme serait un harceleur à ce moment-là.
Il y avait eu des menaces de mort, hein. C'était
oui.
Ce qui a déclenché a priori cette arrestation.
Oui, non, mais en fait, le sujet n'est pas sur ce jeune homme qui méritait certainement d'être arrêté pendant un temps, et puis après, c'est pas à moi de juger de ce que décidera la justice. Le sujet, c'est les autres qui sont dans la classe, et on sait très bien qu'à 14 ans, voir quand même 5 policiers arriver dans une classe, ça peut susciter des traumatismes, et moi, je ne crois pas que la République ait la charge de faire peur à ces jeunes enfants.
On va terminer, il nous reste 3 minutes, 4 minutes, on a démarré un petit peu en retard, on va déborder forcément, c'est devenu presque une tradition dans cette matinale. Antoine Ravard, on parlait tout à l'heure des élections européennes, on parlait aussi peu ou prou du climat politique aujourd'hui en France. Vous avez parlé du Rassemblement National qui draine beaucoup de jeunes qui viennent rejoindre les rangs du Rassemblement National. Est-ce que pour vous, il y a un changement de paradigme dans la politique française, en tout cas dans le paysage politique ?
Je crois qu'il y a une augmentation continue de l'extrême droite depuis maintenant une vingtaine d'années. Je crois que moi, j'essaye de me préoccuper plutôt des idées que j'incarne et que je veux porter plutôt que de celles de l'extrême droite qui ne m'intéressent pas. Mon objectif, c'est de lutter contre leurs mensonges. Parce que c'est bien cela, la réalité. C'est des propositions populistes. On l'a vu, le zéro migrant. Je veux rappeler que Marine Le Pen est alliée de l'extrême droite italienne qui est actuellement au pouvoir, qui est arrivée au pouvoir parce qu'elle a dit la même chose, il n'y aurait plus un migrant. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Lampedusa. Et finalement, la première ministre italienne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé à la rescousse la Commission européenne. Mmh. Parce qu'on se rend bien compte que ces solutions populistes qui sont avancées comme ça pendant les campagnes électorales par le camp de l'extrême droite partout en Europe sont absolument inopérantes. Moi, je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent, je voudrais les forcer à lire le programme du Front National, parce que le sujet principal aujourd'hui pour les Français, c'est l'inflation, la capacité à se loger, la capacité à manger. À chaque fois qu'on a fait des propositions à l'Assemblée nationale pour augmenter le SMIC, pour sacraliser un repas quotidien à 1 euro au Crous pour les étudiants, dont je le disais, 1 sur 2 ne mange qu'une fois par jour aujourd'hui, le Front National a voté contre. Pourquoi ? Parce que le Front National ne défend aucunement les Françaises et les Français de ce pays qui ont des difficultés. Elle ne défend aucunement les travailleuses et les travailleurs en refusant systématiquement d'augmenter les salaires et le SMIC et de travailler à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et enfin, je rappelle aussi qu'on n'a pas vu l'extrême droite dans la lutte contre la réforme des retraites de l'année dernière où la gauche était en première ligne, notamment le Parti Socialiste.
Alors, on reproche à la gauche d'avoir perdu l'électorat alors populaire, hein, je ne sais pas si on peut employer ce terme. En tout cas, l'électorat social, les ouvriers, les petits, comme l'on dit, et là, il n'y a aucune notion péjorative dans ma bouche. Est-ce qu'il va falloir reconquérir cet électorat ?
Bien sûr, déjà, c'est le principe même de la politique que de vouloir reconquérir les électorats. Et moi, je me méfie de ceux qui, à gauche, nous disent qu'il ne faut pas parler aux électeurs de Marine Le Pen. Je trouve ça totalement aberrant. Il faut absolument que l'on arrive à parler à cette France populaire, qu'elle soit dans les quartiers, mais ça nous concerne moins ici, et la France populaire rurale notamment, qui effectivement voit aujourd'hui dans la gauche parfois le camp de celles et ceux qui les enferment, qui créent des règles à outrance, qui les limitent, qui donnent des leçons sur leur mode de vie. Donc moi je veux ici tourner la page de cette gauche et montrer que la gauche, avec le Parti Socialiste en tête en Côte d'Armor, peut être une gauche rurale, une gauche qui comprend le quotidien des Français, qui comprend la fierté pour eux d'aller travailler, mais la nécessité d'être mieux rémunéré pour aller travailler, qui comprend qu'ils ont une nécessité de se déplacer, donc qu'on doit les accompagner, mais qu'on ne doit pas, dans une transition, mais qu'on ne doit pas faire des oukas sur la voiture, parce que ici, quand on habite ici, moi j'ai grandi à Quessoy, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler, tout bêtement, on ne peut pas étudier non plus. Et donc il faut qu'on arrive à réadapter un discours auprès de ces personnes, sans renier nos convictions, mais en réfléchissant davantage, éviter les oukas, les interdits, et finalement aller dans l'accompagnement, et expliquer que le mode de vie des territoires ruraux est extrêmement bien compris par la gauche et que c'est toujours nous qui avons fait avancer les conditions de vie de ces personnes et il faut que ça continue.
Alors j'ai une auditrice qui nous a envoyé un petit mot tout à l'heure avant la matinale et qui nous a dit ben, souvent les femmes, les hommes politiques qui viennent à votre micro, vous leur parlez jamais du monde d'après. Voilà, parce que le monde est en train de changer. Voilà, l'intelligence artificielle arrive. Et alors je vais me faire l'interprète de cette auditrice qui nous écoute du côté de Brest précisément. Aujourd'hui, à l'époque de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il va falloir penser politiquement la suite, l'avenir ? Comment appréhender ces nouvelles technologies ? Comment appréhender le monde du travail qui ne sera pas le même dans 10, 15, 20 ans que celui d'aujourd'hui ? En gros, comment penser à long terme ?
Évidemment qu'il faut le penser. Moi, je n'ai pas forcément la réponse à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui doivent accompagner les décideurs. Mais pour répondre sur le principe, évidemment qu'il faut penser ce monde. C'est le propre de la vie politique, normalement, et de celles et ceux qui s'engagent, que de penser l'avenir. Aujourd'hui, la politique souffre justement d'avoir beaucoup trop de gestionnaires, parfois dans les collectivités, parfois au gouvernement, qui se contentent de gérer les affaires courantes. On peut en revenir à Bruno Le Maire. Prix de l'essence augmente, je demande au patron de Total. Ah, il refuse, dommage. Et ça s'arrête là. Non, il faut penser l'avenir, et j'irais même un peu plus loin, il faut rêver en politique. Moi, je souhaite que l'on soit en capacité, dans un pays aujourd'hui où on est beaucoup trop fracturé sur tout un tas de sujets, que l'on s'apaise et qu'on soit en capacité de rêver l'avenir de la France et de l'Europe que l'on souhaite. Et le rêve n'est pas un grand mot en politique, et je m'arrêterai là-dessus. Je disais tout à l'heure que je voulais qu'en Europe, on éradique la faim. certains, quand je dis ça, me disent « vous rêvez ». Mais moi, je rappelle, quand on a créé l'Union européenne, quand ils ont créé l'Union européenne, moi, je n'étais pas là, c'était pour éradiquer la guerre. Mmh. On leur a dit que c'était des rêveurs, que les peuples européens se foutaient sur la gueule, excusez-moi l'expression, depuis des siècles et que ça continuerait ainsi. Mais ils ont gagné. Donc la politique, c'est évidemment du rêve pour construire le monde que les Françaises et les Français veulent dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis après, on se retrousse les manches et on le fait. Mmh. Et la gestion ne vient qu'après, en fonction des idées que l'on souhaite mettre en place.
On va terminer sur la politique un peu politicienne. J'ai commencé en parlant de la désunion de la gauche, hein, pardonnez-moi le terme peut-être un peu rude. On a vu Fabien Roussel très chahuté à la fête de l'humanité. On a entendu des propos à son endroit, propos qui continuent d'ailleurs depuis cette fête de l'humanité sur les réseaux. Est-ce que c'est un mauvais signal qui est envoyé de la part de la gauche ?
Bah, c'est sans doute un mauvais signal qui est envoyé malheureusement de la part de deux ou trois individus politiques, mais qui effectivement certainement rejaillit sur toute la gauche. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la défense publiquement avec le Parti Socialiste des Côtes d'Armor de Fabien Roussel, qui a été accusé d'être un fasciste collabo hier par des députés de la France Insoumise. Et moi, j'appelle les députés de la France Insoumise à se ressaisir extrêmement vite, parce que d'une part, la gauche n'a pas intérêt à se critiquer publiquement. Elle peut discuter, elle peut travailler, il y a plusieurs sensibilités. Et d'autre part, dans un premier temps, il y avait des critiques. Là, des insultes, puisqu'il a été comparé à Jacques Doriot notamment, donc qui est un ancien communiste devenu collabo pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est absolument inacceptable, en fait. Je crois que c'est leur parti, si tant est qu'il y a bien une organisation partisane à la France Insoumise, doit sanctionner la députée qui a dit ça de manière forte et immédiate, parce qu'on ne peut pas s'accuser comme ça à gauche, notamment, encore plus, j'ai envie de dire, le parti des 75 000 fusillés, qui est le parti communiste.
Est-ce que ça va être facile de retravailler avec LFI dans ce climat ?
Vous savez, l'union de la gauche, je vous l'ai dit, elle a plusieurs échelles avec la France Insoumise. Ils sont inclus à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Ici, par exemple, on a une union de la gauche au Conseil départemental dans laquelle n'est pas la France Insoumise. Donc moi, je le dis, le camp de la gauche, il est très large. Il va des électeurs de Jean-Luc Mélenchon jusqu'aux amis de Bernard Cazeneuve et d'autres. Et la gauche ne gagnera qu'en 2027. Elle ne sera une alternative qu'au duel qu'on essaye encore une fois de nous imposer entre les libéraux et l'extrême droite, qu'à condition qu'elle se rassemble. Le Parti Socialiste a vocation à porter ce rassemblement parce qu'il a une position centrale dans la gauche, il l'a toujours eu, et il est capable de parler avec tout le monde. Et pour ça, il faut que chacun commence par s'apaiser et n'ait qu'une seule priorité à l'occasion de ces élections européennes, pour en revenir au sujet politique du moment, qui est de s'occuper des Françaises et des Français et de leur quotidien. Moi, je veux que l'Europe, que beaucoup jugent comme étant éloignée, imposant des règles depuis Bruxelles, s'occupe enfin de notre quotidien, de nos déplacements, notre logement, notre alimentation. Qu'elle monte, qu'elle puisse aider sur les difficultés concrètes.
Antoine Ravard était notre invité. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor. Merci infiniment d'être venu en direct ce vendredi matin au micro de La Matinale. Je vous souhaite une très belle journée.
Pareillement.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.